Le voyage à Samoa, chapitre 5, quatrième partie. À bord du Manapouri, 25 janvier 1902. Ma margue adorée, j'ai été terrassée par la fièvre vers le 8 janvier et j'ai cru mourir. Je n'avais plus ma tête. J'allais de mon lit à la douche pour faire baisser la température qui, pendant 12 jours, a oscillé entre 39,8 et 40,5 degrés. Je me traînais sous l'eau froide parce que je voulais te revoir. Un matin seulement, la vue du ressac gris sur les récifs de corail m'a donné une envie telle d'aller dans la mer que je suppliais Ting de m'aider jusqu'à la grève. Et pendant ce temps, j'avais une pneumonie droite sans savoir autre chose sinon que je souffrais là et ne pouvais respirer. Dès le 9, j'ai fait chercher le médecin allemand Funk qui n'est pas venu. Puis le docteur américain Brandt, de la secte des Seventh-day Adventists, pâle, maigre, à barbe très noire. Il m'a bourré d'antifébrine et de phénacétine, toujours avec douche, toutes les heures à peu près, jour et nuit. Mais je me sentais mourir. Le docteur Brandt a une grande maison où il soigne parfois. Je lui ai demandé de m'y prendre. D'abord, il a crié « Non !» puis a dit qu'il consulterait sa femme. Une demi-heure après, on m'emportait par une civière et on me plongeait dans un bain froid avec un tuyau d'eau chaude le long de la colonne vertébrale et les jambes dans un seau d'eau bouillante. Ceci s'est répété sans cesse. Enfin, la température a cédé un peu. Mais j'étais et suis encore un squelette et ne puis me tenir debout. Oh, ma chérie, j'ai eu si peur de mourir sans revoir ta figure chérie. J'ai eu du courage, j'ai été sous l'eau froide en grinçant des dents et tout ce que j'endurais de la chaleur, des moustiques et des mouches, cela ne peut se dire. Mais je voulais te revoir et revenir chez nous. Janvier. Un peu de mieux aujourd'hui. J'étais soignée dans cette maison du docteur Brandt, au milieu des cocotiers, Ify Road, par une fille de la même secte, Miss McCoy, de Pitcairn Island, petite fille d'un des révoltés de la Bounty qui ont occupé cette île Pitcairn depuis 100 ans avec des jeunes tahitiennes. Les Seventh-day Adventists tiennent leur dimanche le samedi. Ils croient à la venue imminente de Jésus et à son royaume sur terre, à l'annihilation totale des méchants, non à leur punition, et à l'immersion totale pour donner le baptême. Ils sont strictement végétariens. Leurs livres sacrés sont Daniel et l'Apocalypse. Je n'ai eu à peine que des œufs, des bouillies, des fruits conservés et du jus de grappe non fermenté de Californie. Comment retrouver ainsi des forces? Alors j'ai appris que le Manapouri était en rade. À grand-peine, j'ai fait tenir un mot au capitaine Crawshaw, qui m'a fait transporter à bord en civière, sans argent, sous sa responsabilité. Ainsi sauvé. L'air de la mer me permet un peu de force. Mais l'affreuse pneumonie me serre le poumon droit, et j'ai d'affreuses nuits. Mais je te reverrai, ma femme chérie, je le jure. Je n'ai rien su par Brandt, qui se bornait à prendre ma température. mais par un médecin allemand, Schweiginger, qui l'a remplacé pendant 2 jours. De Sydney, je vais télégraphier à Maurice pour de l'argent pour payer Brandt, Mose et l'Union Steamship and Company. Puis il faut revenir. Si je me sens un peu mieux, je reviendrai par le cap pour rester longtemps en mer et retrouver un peu des forces perdues. Embarqué le 24 à 4 heures du soir, parti le 25 à 10 heures du matin. De la mer, Upolu est jolie, comme une émeraude sombre dans du saphir liquide. Toute la matinée, mer de saphir, avec les lagunes mortes bordées de récifs jaunes de corail, et les montagnes d'émeraude sous les nuages lourds. Manono, Apollina, et au loin Savaïr. Nous revenons vers Fidji et serons, je crois, demain à midi à Levuka, où est le roi légitime de Samoa, Maetoa. Je suis parti devant 3 SH à un autre fils de roi, Safolo, fils de Poulet, Poulet qui faisait mon blanchissage, 3 SH et un chasse-mouche. Impossible de le trouver pour le prévenir. Enfin. Toutes les histoires sur la beauté de Samoa sont des mensonges. Mais les indigènes, je les aime beaucoup. Lui, Mae Alufano, m'avait donné son fils, Fanu, pour me servir. La noblesse de ce jeune homme pendant ma maladie a été extraordinaire. Il croyait, et je croyais, que j'allais mourir. En des phrases bien émues, il me recommandait « Allez-vous ?» et me donnait des sogi, des reniflements sur les mains, car les Polynésiens ne reconnaissent pas notre baiser. Son père, Tui Maleali Fano, fils de roi, m'avait donné un grand dîner où il n'y avait que des personnes royales. Tupua, Tamantsese, Saipaïa, Faalata, de Tulafale, Turkmen, qui parlent aux réunions pour le peuple, les chefs ou les rois Aoukloua et Tolo. Une jeune fille, Foua, était près de moi pour me déchirer les morceaux et me donner à boire et à fumer. C'était un splendide repas, servi sur d'immenses feuilles de bananier en guise de table. Tous les piliers de la maison étaient enguirlandés de longues tresses de fleurs d'hibiscus et de foua, le souvia de Ceylan, à un long calice jaune clair taché de marron au fond. Tamasese m'a fait un long discours auquel j'ai répondu de mon mieux. Puis on a mangé. Porc rôti entier, poulet rôti, feuilles de taro au lait de coco, gâteau de taro, scolopendre vivant, œufs durs, breadfruit, poisson bouilli, noix de coco pour boire, puis une bassine pour se laver les mains, cigarette de Samoa roulée dans une feuille de bananier séché. Enfin, danse, siva, parfois, et une autre jeune fille. Tout cela précédait du kava traditionnel et de longs cris « Olé à lire » poussés sur une mélopée par un vieux Tulafala. Enfin, présent d'éventail et de la bague de Tui, de canne à sucre, de kava, etc., rapporté chez moi de Moulinou par Franou. Janvier. Nous serons à Sevuka vers 1 heure. Depuis ce matin, nous naviguons parmi un peuple d'îles noires sur la mer Gris-Ardoise. C'est le groupe des Fidji. Mais à Samoa, on prononce Fiti et à Tonga, Fisi. L'S est toujours dur. J'ai beaucoup de mal à écrire. Cette pneumonie paralyse mon bras. Je passe d'horribles nuits et reste bien faible. Mais Dieu me ramènera vers toi, ma chérie. Pendant que j'étais bien malade, un missionnaire wesleyen m'a exhorté longtemps. Et, chose étrange, son long sermon, où il m'appelait « friend » et me parlait de la mort, m'a donné du courage. Ah, qu'il m'en a fallu et qu'il m'en faut encore! Partout à Samoa, il y a des missionnaires. Depuis Matauta à l'est, Apia, Motarpete, Songi, Mulinuu, il y a la mission anglaise, civilisée celle-là. Puis la mission allemande, puis la mission des maristes français, avec une église à vitraux et un évêque. Ce sont des brutes inhospitalières. Les Wesleyennes, les Mormons et les Seventh-day Adventists. Tout cela parmi les Stores de Blackstock, Mose, la compagnie allemande, etc. Les Blancs sont des brigands inouïs. Le Commodore Weaver a une histoire extraordinaire. Arrivé à Samoa à bout de ressources, avec son yacht, une femme à qui il l'avait hypothéqué, une fumerie d'opium, une joueuse de cartes et de billard professionnel pour piper ses invités. Il a vendu son yacht à Annetland et acheté des indigènes à vil prix du terrain. Fait là-dessus une société véreuse à San Francisco. Et maintenant, installe machine à glace, éclairage électrique et service d'eau. Son papier ne vaut rien et il va faire faillite. Mais lui croit faire fortune en un an, acheter un nouveau yacht et revenir à Paris pour épouser la comtesse Tolstoï. Les filles de Samoa ne sont pas jolies. Gros poignets et grosses chevilles, nez écrasé et lèvres trop charnues, cheveux droits rougis à la chaux, et tout le corps et les cheveux luisant d'huile de coco. La beauté polynésienne est un leurre. Elles ne sont pas femmes, mais jeunes filles, rieuses et aimant ô le siva, ô le petit, la danse, les chansons. Mais j'aime les gens de Samoa, et j'ai du regret de la maison polynésienne. De son caillouti de pierre noire avec ses nattes, de son toit rond et sa charpente compliquée, solide et flexible, et ses piliers en bois d'arbres à pin. Mais le paysage de Samoa n'est pas nostalgique. Rien que les cocotiers, les faous et quelques hibiscus, l'arbre à pin, le bananier. Le ressac sur les récifs n'a pas la gravité profonde du ressac assez lent, et les couleurs ne sont pas tentantes. J'espère, si Dieu me permet de revivre, pouvoir écrire tout cela en meilleur langage. Ici, je cause avec toi. Nous avons très beau temps, mais très chaud. La mer est plate et le ciel des tropiques bleu pâle et blanc, avec sa grosse ceinture de vapeurs épaisses et coloriées à l'horizon, où se poursuivent des formes pareilles à des esquisses de Michel-Ange. Des barques de feu, des mouchoirs de batiste noire, des petites flammes très roses, des îlots noirâtres et des bancs épais tranchés par en dessous comme au couteau. Et toujours surgissent sur la mer des îles des montagnes coniques jaune-vert avec des arbres noirs, des dos de cétacés dormants. C'est le pays des îles, c'est vraiment la Polynésie. Je ne t'ai pas parlé des danses de Samoa que j'ai vues au Nouvel An. Celles des filles, très lascives, sont déjetées de mains et de bras, souvent entre les cuisses. Elles avaient la tête enduite de chaux, nues jusqu'à la ceinture, et une sorte de jupe jusqu'à mi-cuisse, faite de je ne sais quel long poil noir. Les vieilles dansent aussi, colliers de fleurs et de fruits rouges, semblables à des piments. Puis des jeunes gens sont venus d'Atua et d'Ahana, dansent de guerre avec de gros bambous fendus, des massues de couleurs variées. La tête ceinte de feuilles et le cou, à la ceinture une jupe de feuilles de bananier, la figure barbouillée de suie et de rouge. Ils se couchent à terre, l'un s'assied et se roule sur l'autre, puis debout attaque à la massue. Puis, couchés et par couple, se prenant les jambes et se relevant. Le tout au frappement rythmé sur un gros bambou creux. Janvier. Hier, à 2 heures, nous étions à Levuka. Nous sommes repartis à minuit pour Suva, où nous sommes depuis ce matin. Levuka est dans une île différente. Comme toutes les villes de ces îles, c'est une rue de stores le long de la mer, avec des maisons étagées sur les collines. Mais ici, il n'y a pour ainsi dire qu'un liseré de grève noire. La montagne de basalte verdoyant plonge droit dans la mer. Le basalte paraît à nu sous la végétation intense vert sombre et jaune clair. Il y a des tourelles de rochers et de la paille d'une vallée profonde et verte jaillit une source fraîche dans une piscine. Les cimes des montagnes vertes sont embrumées de nuages. Au lever de la lune, soudain les toits des maisons de Levuka, frottés de brumes blanches, semblaient blancs de neige rayonnante par 80 degrés Fahrenheit. Puis la lune a jeté ses rayons sous un gros nuage blanc qui les semait sur la mer. Suva est la même baie verte que je t'ai dite, jolie, oh jolie, vert tendre et vert noir et vert jaune, avec le pouce du diable dressé parmi les ondulations d'émeraude et l'étrange barre parallèle où vient briser l'océan. Hier, avant d'arriver à Levuka, nous avons vu une de ces grandes lagunes vertes et mortes contre laquelle les vagues écument en hautes gerbes blanches. Et au centre se dressent les montagnes vertes de l'île, un volcan protégé par des madrépores. C'est une chose singulière que de voir sur la mer calme, avec une longue barre d'écume, là où on ne voit aucun récif. Je crois me sentir un peu mieux, mais ne puis marcher sans le secours de Ting. J'ai eu un peu de sommeil dans la nuit. Seulement, j'ai dans le dos l'horrible griffe de la bête qui m'étouffe. Ma chérie, j'ai été triste aujourd'hui, mais j'ai prié Dieu de tout mon cœur qu'il me permette de revoir et d'embrasser ta chère figure. Vois-tu, je n'ai pas de force, et je peux t'écrire parce qu'il me semble que je te parle et que tu es là. Jamais la distance ne m'a autant terrifiée qu'en ce moment. Si Dieu permet que je te revienne, que je revoie maman et Maurice et notre maman et tous les nôtres, j'aurais vécu plus que la vie de douleur d'un homme. Après tout ce que j'ai traversé de souffrance, voici l'angoisse la plus affreuse qui m'a été réservée. Je prie Dieu que ce soit la dernière et la plus grande épreuve. Mes épaules plient sous le fait de la douleur. J'ai eu plus que ma part. Mais je t'aime, mon adoré, et il faut que je pense à cela. C'est peut-être en compensation que je souffre tout cela. Chère souffrance, alors. Je reprendrai courage pour revoir ma Marque chérie. Je le veux de toute ma volonté et de tout mon cœur. C'est grâce à mon cœur qui m'a soutenu que j'ai résisté à la terrible fièvre. Janvier. Je n'ai pu écrire hier à cause du nombre des passagers que nous avons embarqués à Suva. Ce bateau est plein maintenant et assez inconfortable. J'ai vu le docteur à Suva. Coût une guinée. Ma pneumonie tend à disparaître, m'assure-t-il, mais je suis très faible et j'ai besoin de beaucoup de stimulants. Whisky, champagne, etc. Je vais faire de mon mieux, mais je n'ai pas d'argent. Nous avons quitté Suva à 2 heures, traversé la passe près de la petite carcasse rouge du naufrage. À 4 heures, nous étions à Navua, toujours dans Viti Levu. C'est une baie de cocotiers sans physionomie. Chaleur étouffante, mais un coucher de soleil fait de lignes de brasier parmi une cité noire découpée en tourelles. Créneaux et coupoles sur une sorte de réglure rouge ardent. Repartis à 4 heures du matin, nous longeons toujours Viti Levu pour aller à Lautoka. C'est un vallonnement vert, un morceau des Pyrénées, jaillit hors de l'océan, avec le vert jaunâtre des cols herbus des montagnes, où l'herbe est courte près de la limite des neiges et de la brousse noire, et la couronne chevelue des lignes de cocotiers sur les crêtes. Puis, quelle surprise, des plages, des grèves de sable jaune, comme je n'en ai pas vu depuis l'Europe. Mais elles ne sont pas battues par l'eau du large. Un liseré vert mort court tout le long et une mince barre d'écume. Puis ce liseré s'élargit soudain, devient une grande baie, une lagune de nacre où tressaillent des ondulations d'émeraude et contre laquelle se heurte l'eau bleu-noire de la houle du Pacifique. Et au fond de cette mer morte et glauque, avec son invisible ceinture de corail vivant, des montagnes vert-jaunes, selon l'ombre des nuages, rougeâtres et ténébreuses, et violettes et livides, trempant leurs pieds dans l'onde glauque où frémit un rayon vert pur. Sur la grande lagune, bâillent des bouches d'écume blanche, çà et là, tandis que la houle du Pacifique demeure immuable dans sa couleur d'acier bruni. Et là, des buissons, des têtes noires d'arbres, comme des bosquets droits dans la mer, parfois plongeant dans une eau d'argent, si le soleil le permet, parfois dans une nappe dorée, le plus souvent dans la lagune glauque au tressaillement vert. En tout cela, une chaleur pesante et humide, avec des mouches lentes, sous des nuages si proches qu'on sent sur la nuque la moiteur de leurs ouates humides qui promettent l'orage et ne le tiennent jamais. février 1902. Cette lettre ne partira jamais, je la rapporte avec moi. Mais je la continue pour toi, ma Margue chérie, et pour que tu saches, s'il m'arrive quelque chose, que je t'aime et que ma dernière pensée a été pour toi. Mais je vais mieux. 15 longs jours que je ne t'ai pas écrit. c'est que j'ai passé par une extrême misère physique. La Outoka n'a rien de très attrayant. Une ligne de buissons croissant à même la mer, comme un pilotis feuillu et trapu, à travers lequel ruissellent les courtes vagues du port. Puis la ligne basse de la terre, avec sa plantation de cocotiers, et, plus haut, les roseaux jaunes et verts, drus comme de l'herbe courte, et les carrés des plantations de canne à sucre. Santoka est surtout une station sucrière d'une très riche compagnie, la Colonial Sugar Company, qui exploite les îles Fidji. Ensuite, le Manapouri a repris sa route. Vers Sydney, et pendant 7 jours, nous n'avons vu que le ciel et l'eau. J'étais trop faible pour jouir de la mer et des nuages. Et le capitaine Crawshaw, ayant épuisé ses histoires, buvait son cocktail presque silencieusement. J'ai oublié de te dire qu'à notre voyage d'aller, pendant la quarantaine en rade de Suva, il a tué d'un coup de fusil un serpent de mer. Il y a, et j'ai vu, des serpents de mer. Celui-ci, qui avait environ 1 mètre de long, était fait à la façon d'une couleuvre aplatie comme un ruban, gris sale avec des bandes noires en travers et une tête triangulaire et vipérine. L'océan Pacifique Sud en regorge. Enfin Sydney, et l'entrée du port par la brèche de la muraille. Tant d'ennuis et de faiblesses. Finalement, je prends une chambre au German Club, où on m'a accueilli avec une amabilité extrême. Là est un vieux professeur de musique, Kretschmer, qui mérite un livre, comme Crawshaw. Je note son nom pour le décrire plus tard. Ici, je ne saurai. J'étais, par faiblesse, étendu sur mon lit presque tout le temps. J'aurais voulu revenir par le cap. Tout a été impossible. L'Orient Line me promettant une bonne cabine où je serai seul, j'ai pris l'Austral d'où je t'écris et je me suis embarqué le 12, avant-hier. Nous sommes partis à midi, par une journée radieuse, embrumée à l'horizon, tandis que les jolies baies de Sydney Harbour étaient toutes brouillées. L'Austral va d'abord en Tasmanie, et nous piquons droit au sud, où nous irons non loin de la limite des icebergs. La brume couvre le ciel et le grand cercle de la mer. Une brume d'abord faite de bleu et d'or, puis d'argent, de poussière, de brouillard d'argent. Puis le vent se lève, glacial et sifflant. Nous entrons dans une perturbation australe annoncée sous le nom d'Onias et qui circule entre la Nouvelle-Zélande et l'Australian Night, allant tomber dans l'océan Antarctique. Les chaises du pont volent sous la poussée du cyclone. Vite, on abat les rideaux de toile. La mer battue devient furieuse et l'écume comme de l'eau qui boue. En une demi-heure, le pont est sous l'eau et le spordeck impraticable par les vagues qui y brisent. 5 ou 6 personnes seulement à dîner. Tempête toute la nuit. Les marteaux d'eau s'abattent sur mes hublots. Tempête le matin. Le pont est impraticable. Les cordages sonnent sous l'ouragan et tout le gréement de l'Austral siffle. J'essaye d'aller au fumoir et suis repoussé dans ma cabine par l'eau et le vent. 3 personnes à déjeuner, dont un doyen protestant, son chanoine et moi. Stewards et matelots et quelques officiers malades. Dans l'après-midi, au fumoir, une vague force la porte et inonde le plancher sur le spardeck. antique. Néanmoins, nous restons. Où aller ? Vers le soir, Onias s'apaise peu à peu. Dans la nuit, le calme se fait. Ce matin, par un rayonnant ciel bleu pâle, nuagé délicatement, sous un vent froid, parmi le vol des grands albatros blancs, la terre de Van Diemen apparaît. Hier, au coucher du soleil, dans la brume orangée, tout au bord du ciel et de la mer, j'avais vu des cygnes noirs, demi-noyés dans la poussière d'or. Montagne ou vapeur. Mais ce matin, c'est une côte de dunes blanches et de buissons noirs. février 1902. Trois longues heures pour entrer dans la rade de Hobart. Mais ici, un spectacle extraordinaire apparaît. Des falaises nues et droites, faites de tuyaux de basalte accolés, plongent droit dans la mer. Falaises désolées et stériles, nudités noires et rigides, déchiquetées par le haut, comme si leurs colonnes impénétrables chantaient la tempête dans une formidable symphonie mineure tout autour de Storm Bay. Deux, d'abord, avancés dans la mer. Et les vagues bondissent contre leurs murailles cannelées et les gerbes d'écume jaillissent jusqu'à mi-hauteur, hors de la mer grise et morne, écumant sous le vent comme si elle bavait de fureur impuissante. Et puis, dans un tournant de la côte, une grande baie solitaire et pierreuse, ouverte dans la haute falaise, dont la crête est chevelue d'une chevelure horrible d'arbres rigides, nus et noirs, tiges sans branches hérissées comme d'horreur, et entre lesquelles filtre le ciel vert. La mer mugit contre la courte grève, et sur son dépouillement, une volée de papillons blancs, une nuée d'ailettes éclatantes de blancheur qui tournent en cercle, en spirale, de papillons épars sur l'océan terne sous ce vent austral qui siffle de froid. De papillons? Non, ce sont des albatros, 100, 200 peut-être, qui virent et voltent au flair de la tempête plus près de l'austral et plus près, comme des paquets de neige ailée, le long bec blanc et rose diligemment incliné vers les vagues, glissant, glissant silencieusement dans la bourrasque glaciale. Et d'autres ont leurs grandes ailes noires, éployées comme des voiles sinistres. Et d'autres semblent menacer les cordages, guetter la carène, tourbillonnant dans une attente de naufrage à l'affût de l'ouragan. Cependant, la muraille cannelée se dresse là, formidable, parce qu'elle est droite, nue et noire, avec sa chevelure de terreur. Et, au détour de la baie morne, un nouvel orgue de pierre s'avance, taché çà et là de vert sur son flanc. Il est attaché à la côte tasmanienne. On nomme ces roches un organ pipes, et cette étrange formation basaltique se retrouve sous le même nom parmi les hauteurs qui entourent le mont Wellington. Vers 1 heure, le 15 février, Hobart apparaît, au fond d'une jolie baie couronnée de montagnes, et à l'arrière-plan d'une des rives, le mont Wellington s'allonge. Il était coiffé de neige la veille, et quelques taches resplendissantes le marquent encore parmi la brousse noire. Dunes éclatantes encore et irritantes comme des dents trop blanches, avec leur pelage de buis, ton ténébreux, et le feuillage sombre des gommiers et des araucarias. un wharf, des magasins au fond d'un large quai, les villas étagées sur les ondulations voisines, et, quand on s'approche, la surprise de jardins cachés avec de grands géraniums, des fleurs d'Europe et de hautes passion flowers. Les gens de Hobart se pressent pour venir visiter le grand paquebot. Triste distraction, dont ils ne profitent qu'entre février et Pâques, à la saison des pommes. Nous embarquons 17 000 caisses de ces pommes, qui devront être maintenues à une température constante jusqu'à Londres. Pauvres Tasmaniens, l'ennui tapisse les visages des malheureux qui traversent en procession le fumoir, le salon, et viennent soulever les rideaux des cabines. Le Mercury, grand journal de Hobart, annonce que l'Austral a rencontré « very heavy weather ». Je m'en rends compte lorsque j'apprends qu'un coup de mer a enfoncé les panneaux solides de la porte fermée du docteur dans sa cabine de pont. Le soir, un ciel vert livide s'épand derrière la brousse noire des collines. Vert de phosphore clair, comme un frottis de lumière émané du ciel même et à travers, barrant la crête du mont Wellington, un nuage de gaz très noir, de fumée de nuit, s'allonge, s'étire et se disperse en flocons de laine infernale qui flotte parmi la clarté verte et surprenante du ciel très pur. Nous repartons le lendemain à 3 heures. Et, dès le goulet de la rade, la mer redevient furieuse et soulève des montagnes mouvantes, obliques, verticales, lancées çà et là et toutes zébrées de barres d'écume, tachées de cercles d'écume, glauques et noires. Les hublots sont martelés par les masses liquides. Voici les grands jeux d'orgue de basalte, singulièrement muets, au lieu de résonner largement sous la tempête. Voici la baie solitaire et pierreuse où tournent toujours les albatros. Puis le vent tombe. L'Austral glisse sur l'océan. Ce matin, l'air est plus doux. On aperçoit les bords de Flinders Island et de Swan Island. Nous remontons vers Melbourne par le détroit de Bass. Soudain, sur la mer, nappe à peine vidée, émerge une pyramide grise et rose, quadrangulaire et pointue. Un fût de colonnes, un roc qui semble le bout pétrifié d'un doigt de géant. Et ces trois objets étranges sont isolés éternellement au milieu de cette passe australe. Signifiant on ne sait quoi de cette mer qui roule, le mystère du pôle antarctique.